Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode de Culture sans et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sans et Or. Vous commencez à la connaître, hein, notre émission. Aujourd'hui, nous reviendrons sur cette nouvelle défaite du RC Lens à domicile face à Nice. C'est la crise. Non, c'est pas la crise. On se demandera comment le RC Lens aurait pu faire mieux. Et pour répondre à ça, avec moi ce soir, il fait son retour chez nous. C'est le coach de Culture sans et Or, Amaury de Monchaux. Bonsoir Amaury.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Ça fait plaisir de te retrouver. Il est la voix du RC Lens pour la plus grande radio de France. C'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel.
Salut Thomas, bonsoir à tous.
Il est la plume du RC Lens pour le plus grand quotidien de la région. C'est Grégory Lallemand de la Voix du Nord et la Voix des Sports. Bonsoir Grégory.
Salut à tous.
Et enfin, il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Vous le connaissez tous car il a été président de notre cher RC Lens. C'est Luc Dayan. Bonsoir Luc.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être venu, Luc. Bienvenue dans l'émission. Donc, avec cette équipe, nous reviendrons, comme je l'ai dit, sur la défaite face à Nice de ce samedi. Nous adresserons les bons points, les mauvais points. On analysera. Après ça, aura lieu le célèbre quiz Culture sans et Or. Encore une fois, il est assez vicieux. Là, on va parler d'histoire du RC Lens, vous verrez. Et après avoir interviewé notre invité Luc Dayan, nous parlerons un peu de droit télé, un petit peu pognon, quoi, pour enfin se projeter sur le prochain match du RC Lens, Montpellier-Lens, de ce samedi, 17h. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions à Luc Dayan sur le live Facebook ou le live YouTube, car nous sommes sur Facebook et sur YouTube maintenant. Je me chargerai de les lui transmettre. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Alors avant de démarrer l'émission, je le rappelle, sachez que Culture sans et Or a désormais son propre site web, culturesansetor.com. Vous y trouverez plein d'articles, plein de contenus. On a des jolies plumes hein, également chez Culture sans et Or. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux Culture sans et Or sur Twitter et notre page Facebook Culture sans et Or. Voilà, j'ai donné toutes les infos, je les redirai plusieurs fois dans l'émission, vous verrez. Maintenant, passons au débrief de ce match. Cette défaite face à Nice, une nouvelle défaite à domicile. Ma question d'ouverture sera simple. Est-ce que ce RC Lens commence à être à la peine physiquement ? Greg, pour commencer.
Ouais, on l'avait un peu. Bonjour à tous. On l'avait un peu abordé la semaine dernière. On sentait que avant le match de Marseille, on avait dit que cette équipe, elle peinait peut-être à amener ce qu'elle a amené en début de saison, c'est-à-dire cette capacité à défendre en avançant, à gagner des duels et donc elle laissait beaucoup plus d'espace, donc elle se mettait en danger. Voilà. Finalement, le match de Marseille a été très très abouti. On l'a dit jeudi. Enfin, pour moi, hein, tactiquement, physiquement, cette équipe, elle semblait au-dessus des Marseillais qui avaient eux aussi joué à peu près le même nombre de matchs sur le début d'année, voire même le trophée des champions en plus. Par contre, oui, un peu comme contre Strasbourg sur le match précédent à domicile, on a senti cette équipe vraiment en dessous au niveau physique. Et quand physiquement on est moins bon, forcément techniquement on est moins juste. Mmh. Et c'est exactement ce qui a manqué à cette équipe. C'est exactement ce qui a manqué à cette équipe samedi pour faire un peu plus mal, en tout cas à des Niçois qui étaient certes bien organisés, mais qui ont aussi jouer le jeu, donc ils ont laissé des espaces et Lens n'a jamais su s'y engouffrer, ce qui prouve là aussi un petit problème, je pense, d'énergie. Voilà.
Et tu le dis, Greg, hein, tu le dis samedi, effectivement, c'est très étonnant, mais le RC Lens et Marseille ont joué samedi après avoir joué mercredi. C'est difficile à comprendre. Sam, est-ce que toi, tu as trouvé cette équipe empruntée ?
Bah, en fait, si tu veux, oui, elle était très empruntée. Mais disons que le problème physique, pour moi, il est juste ponctuel. C'est-à-dire qu'en fait, le problème physique, il est lié au. Est-ce que les Lensois, ils ont eu 36-48 heures de récupération complète, ce qui est très peu. Effectivement, la Ligue avait le droit de faire jouer Lens et Marseille le samedi. Hein. C'est un petit peu la même configuration qu'un club de Ligue Europa qui joue le dimanche et qui joue le jeudi en Coupe d'Europe et qui rejoue le dimanche en championnat. Donc c'est une possibilité. Les Lensois et les Marseillais avaient demandé à jouer le dimanche. Ça n'a pas été accepté. Donc effectivement, pour moi, c'est évident qu'il y a une rupture d'équité entre une équipe qui a une semaine pour préparer un match et une autre équipe qui a à peine pour préparer le même match. Donc, très conjoncturellement, il y a eu une équipe de Lens qui était empruntée, mais je pense que c'est simplement lié au contexte et que quand il y aura un petit peu plus d'air, c'est-à-dire une semaine de récupération, la fraîcheur physique dont parlait Greg va revenir parce que c'est comme ça que ça marche, en fait.
Luc, avant l'émission, vous me disiez que vous appréciez particulièrement le RC Lens de cette année. Est-ce que vous comprenez que justement ce genre de type de jeu essore un petit peu les physiques de nos joueurs ?
Bah oui, et surtout sur les terrains lourds, l'hiver, enfin vraiment avec un déplacement à Marseille, un retour, c'est évident que physiquement et psychiquement aussi, l'énergie n'est pas la même, même s'il y avait de la bonne volonté, je peux comprendre que ce soit difficile. Effectivement, en plus, une équipe de Nice qui est rugueuse, qui est pas bien classée, donc qui était là pour vraiment planter et gagner à l'extérieur sur un terrain que vous connaissez qui est quand même assez grand. Bollard, c'est un stade assez large, donc c'est un peu normal que physiquement ça ait pêché.
Amaury, je vais poser une question de coach. Pour un coach, est-ce que Francaise aurait peut-être dû faire un peu plus tourner étant donné l'état physique de l'équipe?
Pour moi, le vrai joueur qui pose question, c'est Kakuta quand même. C'est là où je pense qu'on peut redire sur la gestion de Gaël Kakuta. Parce que je regardais un petit peu, au final, oui, on a fait 3 matchs, mais c'est Fortes Grady qui débute les 3 matchs, donc qui n'ont pas les plus grosses ébauches d'énergie. Et aussi devant Kakuta et Sotoka. Sotoka, on connaît son énergie avant, donc je trouve que ça s'est pas forcément vu sur les déplacements. En revanche, Kakuta, je trouve qu'il a fait, alors je pense l'un des pires matchs depuis qu'il est revenu, où il a été moins influent. On a vu une animation offensive qui était quand même bien moins fringante que d'habitude, et on sait que c'est notre playmaker, c'est par lui que passe le jeu et qu'arrivent les situations. Donc c'est surtout là où je trouve où ça s'est vu. On a quand même la chance d'avoir des joueurs interchangeables. On sait que les Pistons les changent. D'ailleurs, Michelin fait pas un mauvais match. On peut changer ces joueurs où il y a une grosse débauche d'énergie là.
Moi, on nous dit l'inverse sur le chat. Hein. Je dis juste que le chat a pas trop aimé le match de Michelin. Voilà.
Bah écoute, moi je trouve que ses centres sont pas mauvais. Je trouve qu'il a apporté le danger un minimum. Je serais plus réservé sur Bourrin en revanche, que j'ai trouvé un peu en dedans. Mais on aura peut-être l'opportunité d'évaluer après les prestations de chacun.
Du coup, tu parlais de Kakuta qui a peut-être fait son plus mauvais match. Est-ce que vous avez le sentiment que sur ce match il y a eu un espèce de plan anti-Kakuta de la part des Niçois, Sam?
C'est pas une impression, hein, c'est un fait, hein. C'est-à-dire que même de mémoire, Greg va pouvoir le confirmer, mais en conf de presse, je sais plus si c'est CA ou si c'est Pierre Lesmelou qui parlait du plan anti-Kakuta, donc les Niçois l'ont reconnu. Donc effectivement, quand Kakuta est un petit peu moins bien physiquement et qu'il y a une organisation en face qui fait tout pour diminuer son influence, ça peut avoir un impact conséquent.
Et du coup, Greg, tu penses qu'on peut le contrer ce quand on a une équipe comme ça en face qui fait un plan anti-Kakuta?
Bah, on peut le contrer. Oui, je sais pas. En tout cas, pour moi, il y a une vraie conséquence de ça, c'est que Florian Sotoka, quand Kakuta ne peut pas vraiment mener le jeu quand il est pris, Florian Sotoka est obligé de revenir très très bas pour jouer en un peu point d'ancrage, et donc il dézone forcément, ce qui fait qu'il y a moins de présence dans la surface à l'arrivée. Je pense vraiment que ça s'est ressenti, en mon sens, contre Strasbourg et là aussi, c'est-à-dire que quand Kakuta peut pas vraiment être à la main pour des raisons X ou Y, mais bien sûr que le pressing adverse joue. C'est évidemment, ça fait déjouer un peu tout le monde. Tout le monde essaie d'en faire un peu plus et le fait un peu mal. Du coup, il y a beaucoup moins de fluidité parce que on peut pas demander à un Sotoka ou d'autres d'avoir la même qualité de passe et la même qualité technique. Sur l'histoire de Kakuta, et je pense que Franck Hess, qui est quelqu'un d'assez lucide, même après directement après les conférences de presse, après les matchs, pardon, à chaud. Il arrive souvent à avoir déjà du recul sur ce qui est pas toujours le cas, c'est pas facile, hein, et on peut le comprendre. On a senti qu'il avait eu le questionnement véritable entre le match de Marseille et le match de samedi, de savoir s'il allait faire jouer Gaël Kakuta. Ouais. Gaël Kakuta, depuis le début de saison, il est quand même super bien géré par le staff. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entraînements 2 jours avant les matchs où lui, il est un peu exempté. Clairement, c'est une volonté. Ça a été dilé dès son arrivée.
On appelle un petit moteur, Gaël Kakuta.
C'est exactement les termes qui sont employés par le staff quand il parle de Gaël Kakuta. Il sera toujours un petit moteur. C'est aussi pour ça qu'en général, il finit rarement les matchs entre la 70e et la 80e. Là, il avait joué tout le match à Nantes. Il avait beaucoup joué aussi à Marseille. Et je pense que c'est la première fois pour moi que le staff se trompe sur la gestion physique de Gaël Kakuta depuis le début de saison. Et ça s'est senti samedi. Voilà.
Et Luc, vous donc qui forcément suivez le RC Lens depuis longtemps, vous savez que Gaël Kakuta est un nom qui est connu du côté du RC Lens. Est-ce que vous êtes surpris de cette saison de Gaël Kakuta?
Non, parce que j'avais vu ses matchs avec Amiens et moi on m'avait même demandé au Qatar s'il y avait un milieu de terrain talentueux qui pouvait venir. Moi j'avais proposé Gaël, il connaissait pas bien et moi je pense que c'est un joueur incroyablement talentueux et effectivement j'ai été très content d'apprendre qu'il parte, qu'il vienne jouer à Lens, parce que vraiment c'était pour moi une des priorités, c'est de pouvoir avoir ce type de joueur dans l'effectif du RC Lens, parce que c'est des joueurs rarissimes avec une qualité technique extraordinaire, un sens du jeu fabuleux. Et en plus, je trouve qu'il il sait très bien faire jouer les autres. C'était peut-être pas ce qu'il faisait avant, mais là, je trouve que c'est vraiment une recrue top niveau, quoi.
En tout cas, cette année, il nous l'a pas mal prouvé. Amaury, à Papy Gomis sur le chat qui nous dit il n'a pas regardé le match. Amaury, Michelin invisible sur le match. Alors voilà, on en parlera tout à l'heure de Michelin. Voilà, il te fait attaque en règle sur le chat. Amaury défendra Michelin. Avant ça, Amaury, toi, est-ce que tu as une idée de comment on peut faire face à une équipe comme ça qui déploie un plan contre notre organisateur du jeu?
On le faisait plutôt bien en début de saison, hein. C'est-à-dire que ces décalages, ces doubles décalages sur nos pistons, là, ils apportaient autant de danger que l'axe. Mais c'est vrai que là, depuis quelques matchs, beaucoup de nos actions passent par l'intérieur. Le plan de jeu au début, c'est vraiment de fixer à l'intérieur pour trouver nos joueurs lancés sur les couloirs. Là, on voit très peu de passes en profondeur et je pense que c'est là où le bas blesse un petit peu, Sam, qu'est-ce que t'en penses?
Bah écoute, en fait, si tu veux, effectivement, la réflexion de Franck Hayes sur Kakuta. Ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, il me semble que Franck Hayes avait deux possibilités. Alors, évidemment, c'est facile de refaire le débat après la rencontre. Mais Franck Hayes, de mémoire, il n'a pas fait débuter Gaël Kakuta à deux reprises cette saison. C'était à Dijon et contre Brest, où il change carrément de dispositif tactique en passant en 3-4-3, c'est-à-dire avec deux vrais ailiers, avec notamment Corentin Jean qui avait joué à Dijon, ou Sotoka et Banza et Kalimuendo contre Brest, où justement ça te permet quelque part de contrebalancer les pistons qui étaient assez performants d'ailleurs, Camara et Attal, qui a marqué le but pour Nice. Ouais. Donc ça, c'est une première possibilité. Et après, il y a la deuxième possibilité qui est en fait garder le même dispositif. Mais à un moment donné, peut-être faire confiance à Mauricio, peut-être faire confiance au petit Pereira da Costa. Alors, j'allais dire avec un sourire un peu cynique, peut-être faire confiance à Charles Boly également, qui a été très avec le PFC le samedi soir. Bon, ça, évidemment, c'est une plaisanterie. Mais disons qu'il y a des possibilités. Je suis assez d'accord avec Greg. À mon sens, c'est la première fois. Mais d'ailleurs, quelque part, je le reconnaissais en conférence de presse. Hein, il disait… On sentait qu'il avait conscience qu'il s'était trompé. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû faire jouer Kakuta autant de temps.
Est-ce que, je vais avoir une question plus globale, hein, sur la saison du RC Lens. Je l'ai lu ça et là dans la presse. Est-ce que finalement le RC Lens commence pas à être craint quelque part avec tout ce qui monte depuis le début de la saison? Luc, est-ce que ça vous étonnerait pas que le RC Lens commence à être craint malgré son statut de promu?
En tout cas, on a vraiment l'impression que c'est une équipe calibrée pour la première division, qui est une équipe solide, qui marque des buts. Enfin, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un promu. On a l'impression d'avoir une équipe extrêmement équilibrée, mature, avec des personnalités fortes. On n'a pas du tout cette impression qu'on a quand une équipe qui monte. On a l'impression que c'est une équipe qui peut jouer dans viser les 6-8 premières places sans problème, très légitimement, à tout point de vue, hein, physique, tactique, mentalité, profondeur de l'effectif. Voilà.
On parle de sixième place, c'est la place qu'on aurait dû avoir si on avait battu Nice, voilà. Je le dis pour voilà,
s'ils finissent dans les 10 premiers, c'est une très très belle saison. Mais ça veut dire que tous les choix qui ont été faits à l'intersaison sont des vrais bons choix au niveau du recrutement, de la composition de l'équipe, des décisions sur ceux qui sont partis, qui ne sont pas re-signés. On a tendance à oublier tout ça, mais je trouve qu'il y a eu une vraie maîtrise de cette transition.
Quand on a fait le bilan de cette première moitié de saison dans Culture 101, on a beaucoup comparé, on s'est posé la question de la comparaison entre Lorient et Lens justement, et on a essayé de trouver quel point effectivement en termes de profil choisi, c'était une grosse force du RC Lens de cette année. Juste Amaury, hein, que je clôt le débat, Papy Gomis nous remet un message pour dire « Pourtant, je trouve qu'Amaury est souvent très juste ». Voilà.
Non, mais pour argumenter, je regardais, c'est Michelin qui réussit le plus de centres, hein. C'est lui qui apporte la seule grosse occasion quasiment du match, qui est la tête de Ganago loupée. Pendant ce temps-là, Boura, il réussit un centre sur 6, close 0 sur 4. Il a pas non plus fait un grand match, Papy, hein, je suis d'accord avec toi. Mais il s'est pas fait prendre à défaut défensivement, et offensivement, il a pas été, en tout cas, en deçà des autres, quoi.
Bon, tout est bien qui finit bien entre Papy et Amaury. Ouais, toi, Greg, est-ce que tu peux comprendre que cette équipe du RC Lens soit crainte maintenant? Même par des équipes comme Nice.
Ben, je pense qu'il y a une forme de respect, évidemment, qui s'est installée. Quand vous gagnez à Monaco, vous gagnez à Marseille, que vous tapez Paris, à un moment donné, ça commence à compter quand même. Donc évidemment, cette équipe, elle a surpris tout le monde. Maintenant, elle surprend moins. Rappelons qu'en début de saison, moi, même j'étais le premier à dire que le 3-4-1-2 du Racing Club de Lens était un peu à double tranchant. Cette équipe, en plus, dans les matchs de préparation, était franchement triste au niveau technique. Et d'un coup, il y a eu un éclair. Je crois que c'est le match contre Dijon en amical à Bollard, quelques jours avant la reprise de la saison. Et cette équipe, elle s'est trouvée une qualité. Et voilà. Et puis, Franck Haise gère bien son groupe. Et donc, oui, évidemment que cette équipe a les craintes aujourd'hui. Et on le comprend, enfin, franchement, quand on la voit encore perdre 3-2 à Lyon, au-delà du score, mais comment elle a bougé cette équipe lyonnaise, quand on voit ce que Lyon est en train de faire aussi tous les matchs, même s'il a perdu contre Metz la semaine dernière, mais c'est une équipe qui fait mal quasiment à tout le monde, et elle a du mal à préserver sa victoire en ayant 3 buts d'avance face au Racing Club de Lens. Donc quand vous faites des matchs comme ça au Groupama Stadium, au Vélodrome ou d'autres, bon, bah ouais, ça commence à...
Voilà. Greg, je vais juste te relancer sur un autre sujet rapidement parce que quand on parlait de Gaël Kakuta, il y a eu un message sur Facebook qui était peut-être le plus à même pour répondre. On nous dit, c'est Yannick Obrother qui dit, n'y a-t-il pas une sorte de pression obligation sur le staff de faire jouer Kakuta? On l'avait vu bouder et être en colère lors d'une sortie prématurée lors d'un match. Oui. Du coup, Sam Dodeline de la tête également, donc je vais attendre Sam et après Greg là-dessus. Sam.
En fait, justement, tout à l'heure, je pensais à, enfin, vous allez me dire, ça n'a pas de rapport, mais je vais essayer quand même de vous le montrer, à Tony Parker lors de l'Euro 2015, donc joueur, immense joueur, mais qui était en délicatesse pendant je sais pas s'il y a des amateurs de basket, mais qui était en délicatesse pendant l'Euro 2015, qui se passait d'ailleurs ici à Lille. Et Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, continuait de le mettre sur le parquet parce que c'était le joueur majeur depuis de longues années, et puis c'était le leader, le meneur, etc. Et au final, l'histoire s'est pas très très bien passée puisque les Bleus terminent troisième alors qu'ils visaient le titre européen. Et il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce qu'il aurait pas dû mettre d'autres joueurs un petit peu en avant? Et Vincent Collet disait de sortir Tony Parker. Même, je le voyais très bien qu'il était moins bien que d'habitude, mais c'était pas possible. C'était mon joueur majeur. Il était inconcevable pour moi de le sortir. J'ai l'impression, alors évidemment, toute proportion gardée, mais qu'il y a un petit peu le même phénomène par rapport à Kakuta, où c'est un joueur qui a un autre statut que les autres et qui est certainement plus difficile à mettre sur le banc qu'un joueur lambda de l'effectif. Il faut simplement rappeler que Kakuta, immense joueur, et je pense que tous les observateurs sont heureux de le voir épanoui à Lens, mais il faut aussi rappeler simplement que les quelques fois où le Racing a joué sans lui, ça s'est aussi plutôt bien passé. Et donc peut-être qu'à quelques reprises, on peut faire sans lui.
Greg, pour finir sur cette question-là.
Ouais, c'est une très très bonne comparaison. Moi, j'étais justement à la mi-finale de l'Euro de basket face à l'Espagne où Parker ne réussissait absolument rien, même dans la prolongation et face aux Espagnols et où Vincent Collet avait effectivement un peu persévéré. Je suis pas vraiment par contre d'accord avec Sam sur l'idée que c'est à peu près c'est la même chose. La seule différence, je pense, c'est au niveau tactique, c'est-à-dire que le seul qui peut jouer dans ce système-là en numéro 10 pour moi aujourd'hui, alors on parlait de Charles Bolly, on parlait de Tony Mauricio qui fait des bonnes rentrées, pas de problème, mais je pense que la question elle est plutôt au-delà de son statut, elle est plutôt au niveau tactique, parce que c'est vraiment le seul qui peut jouer dans ce rôle-là à ce niveau-là. La preuve, c'est que les deux fois où il n'a pas fait jouer Gaël Kakuta, il a dû changer son système. Et je pense que simplement, comme c'est un système qui a marché et qui avait marché quelques jours avant, c'est pas si facile d'en changer. Et dans ce cas-là, il faut mettre Gaël Kakuta titulaire. Voilà. Donc c'est plus là-dessus. Mais oui, il a un statut différent des autres. On le disait, c'est le joueur qui sublime le reste. Donc évidemment, Zidane aussi. Alors encore une fois, on ne va pas toute proportion garder. Mais combien de fois Zidane, cramé avant la Coupe du Monde 2006, était quand même titularisé en 10 derrière. Je me souviens de son deuxième match contre la Corée du Sud en 2006 à Leipzig. Là aussi, j'y étais, où Zidane était complètement à la rue et Domenech le voyait aussi que physiquement. Et puis, ça ne l'avait pas empêché une semaine ou 10 jours après d'être vraiment au top et d'amener les Bleus jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Donc, évidemment, quand on a un joueur comme ça à ce poste-là qui est aussi important, on le regarde un peu différemment, je pense que c'est naturel.
En réalité, c'est le joueur qui devrait dire lui-même s'il est en situation de jouer ou pas. C'est là où il y a une problématique de dialogue entre le joueur et l'entraîneur. Il doit lui exposer à ce type de joueur quelle est la situation, et c'est le joueur qui décide s'il est apte à. Parce que c'est vrai que s'il le retire sans lui demander son avis, et que derrière il fait la gueule, et que ça perturbe pour les matchs d'après l'équipe, c'est pas une bonne décision que de ne pas le faire jouer. Donc c'est plus comme ça que ça doit, à mon avis, se gérer.
Juste avant de redonner la parole à Greg, d'ailleurs Greg, tu as répondu à des questions que je comptais poser du chat en avance. C'est peut-être un peu ça la marque du talent, la marque des grands. Juste dans le chat, vous parlez beaucoup de mercato. On va en parler un petit peu en fin d'émission. Vous inquiétez pas parce que je sens que ça vous titille. Greg.
Ouais, non, je reviens sur l'histoire de faire la gueule. Évidemment, on a tous en tête, et je pense que Sam, c'est à ça qui, ou je crois que c'est peut-être notre ami sur le chat qui en parlait, à Rennes, où il est sorti à 20 minutes de la fin, Lens mène 1-0, je vous rappelle, France Caisse le sort, et c'est vrai, il boude. Moi, on le voit, en plus, on est devant au stade là-bas, et on voit qu'il y a un moment de malaise. Voilà, clairement. Il monte en tribune, avec ses coéquipiers remplaçants, Lens double score, et s'impose finalement 2-0 au Roazhon Park. Et on voit bien ensuite, par contre, que dès la fin du match, ils viennent se taper dans la main avec Franck Hez. Il y a un grand sourire de la part de Franck Hez, il y a un grand sourire de la part de Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui vient en conférence de presse après, naturellement, alors que c'est quand même pas le plus habitué à venir, il est même plutôt discret. Et c'était pas pour désamorcer la bombe. Moi, j'étais dans les vestiaires là-bas, il y avait vraiment tout de suite, c'était juste sur le coup, il se sentait bien, je pense, physiquement. On faisait vraiment un bon match. Je me souviens de 2-3 gestes techniques au cœur de la deuxième mi-temps où tu dis, bon, ouais. Il est quand même extraordinaire comme joueur, parce qu'il est vraiment un joueur extraordinaire. Et à ce moment-là, il se sent prêt physiquement et il est sorti quand même. Et donc, il a une déception du moment. Mais ça, c'est vrai pour, ça peut être vrai pour un numéro 10 statut, au gros statut, comme ça peut être vrai pour un ailier qui fait un match pourri, et qu'on voit pas du match. Je pense que, ça, c'est naturel. Et je pense vraiment qu'il y a une vraie relation de dialogue, en tout cas, entre eux. Maintenant, ça n'empêche pas parfois de faire des mauvais choix, et je pense que pour le coup, Franck Hez, et il l'admettait à moitié en conférence de presse samedi, il aurait peut-être pas dû le faire jouer contre l'OGC Nice, ça c'est sûr.
Pour finir sur l'analyse de ce match, on va parler d'un fait de jeu. Vous le savez, il y a eu un élément, un moment très marquant. On était mené 1-0 et une vraie possibilité de pénalty pour le RC Lens. La VAR a été convoquée, le bureau de la VAR a demandé à l'arbitre de venir voir l'action à nouveau. Finalement, pas de pénalty. Avant de parler de ce fait de jeu précisément, Luc, on aimerait bien avoir votre avis sur la VAR.
Ah, sur la VAR. Moi, je vais élargir. Moi, quand j'étais à Lille, bon, on va quand même parler de Lille, mais il y a eu un. Je suis président. Ouais, je suis resté président un an, actionnaire 5 ans, mais j'assume. Ce que je veux dire, c'est qu'on m'avait mis dans une commission pour commencer à regarder l'utilisation de la vidéo. Donc. J'avais travaillé avec un arbitre, et je crois que c'était René Girard comme entraîneur, et j'avais parlé du zéro défaut, c'est-à-dire ce vers quoi on doit tendre. Et puis surtout, l'utilisation à l'époque de ce que l'on pouvait faire avec cette vidéo, moi je considère que c'est les joueurs qui devraient avoir le choix de l'utiliser et de l'activer. Je pense que, mettons, on pourrait dire 3 fois par mi-temps, quelle que soit la situation de jeu, le capitaine de l'équipe peut dire « moi je voudrais faire appel à la VAR ».
Sur du tennis.
Bah oui, parce que je trouve que c'est, enfin voilà, ça c'est plus largement sur la VAR. Je trouve que c'est un très bon outil effectivement, mais il y a des situations en football où par exemple hors jeu, on peut m'expliquer ça 45 fois. Si t'as pas une vision binoculaire parfaite, tu peux pas voir à la fois le départ et l'arrivée du ballon. Et puis maintenant, ils te jugent ça au millimètre du truc, alors qu'on, voilà, c'est un peu. Et je pense que ça devrait être activé par les joueurs. Après, l'interprétation de l'image, et on tend vers le zéro défaut, parce qu'effectivement, quand tu tires une ligne et que tu peux te dire, ah bah tiens, il y a un bras qui a dépassé, il y a hors-jeu, ok. Une fois qu'on a
une ligne,
ça crée d'autres problèmes, mais il faut accepter les conséquences de cette décision-là, qui pour moi, globalement, est bonne. Parce que quand tu vois le nombre de situations litigieuses qu'il y avait avant, où tu devenais dingue sur un péno, sur une main ou autre, une fois que les règles sont… D'ailleurs, ça oblige les règles à se préciser sur les mains et autres, tu vois. Mais moi, je suis pour ça parce que très souvent, malheureusement, ça engendre de la violence, ça engendre… voilà. Et ça, tout ce qui peut débarrasser le football de violence, que ce soit des violences des supporters vis-à-vis des joueurs ou des joueurs entre eux, pour moi, est une bonne chose, voilà.
Mais ça a quand même créé une situation un peu frustrante pour le RC Lens.
C'est l'interprétation, c'est l'interprétation de l'arbitre. Bon, voilà.
Et là, l'interprétation était pas mal contestée par certains, par d'autres. Amaury, sur ce pénalty, est-ce que tu te mets de quel côté ?
Mais écoute, pour moi, il y a penalty. D'ailleurs, c'est quand même assez rare que la VAR rappelle l'arbitre a posteriori et que l'arbitre déjuge entre guillemets la VAR. Ce que je voudrais surtout dire sur ce point-là, c'est la classe des Francaises qui avoue quand même clairement la faute arbitrale, mais qui parle du défaut du jeu de lance, de l'insuffisance à se créer des occasions et à marquer plutôt que de vouloir allumer l'arbitre. Et ça, je trouve que c'est quand même la grande classe.
Greg, sur penalty.
Ah bah moi pour moi pourtant c'est ça que alors je suis pas d'accord avec moi je suis un peu réac là-dessus, je sais pas si c'est vieux con, si c'est, mais moi là le VAR je suis contre parce que je trouve que ça bouffe vraiment certaines émotions et déjà on en manque en ce moment dans les stades. Je trouve vraiment que là par exemple les 5 minutes qu'on a eu contre Nice samedi d'altermoiement avec finalement une décision qui est la même que ce qu'il avait décidé au départ et qui reste contestable c'est particulier. À côté de ça par exemple le VAR, je me souviens du penalty en début de saison contre Bordeaux qui a accordé au RC Lens sur une faute de base sur Ganago, où je continue et j'ai revu l'action il y a pas longtemps, je me demande ce qui siffle encore et pourtant il a passé 4 minutes et finalement il donne penalty au RC Lens où bon ouais, franchement et en plus ça fait
Même le premier pénalty de la saison.
Ouais, c'est un peu ce que je veux dire, c'est que sur 30 cas, tu vas avoir 28 cas qui sont parfaitement bien arbitrés grâce à ça, qui n'auraient pas été bien arbitrés, et deux sur lesquels tu peux. Mais on va vers le zéro défaut, c'est-à-dire tu n'as pas la perfection, tu peux toujours, mais c'est mieux que 100. Moi, c'est mon opinion. Après, il y a plein de choses à améliorer. T'as pas besoin de 3 heures pour voir ce qu'il y a sur un écran.
C'est ça, par exemple.
Mais comme ils ont une pression qui fait qu'ils veulent revoir indéfiniment, voilà, donc c'est plus la façon dont le corps arbitral gère ça et la façon dont justement tu mets les arbitres dans une position à être tranquille. Parce que si les arbitres sont tranquilles, c'est des gens normaux comme toi et moi et donc ils vont prendre leurs décisions en leur âme et conscience. Mais plus il y a de la pression, plus ils vont prendre du temps et plus ça va perturber le jeu. Et je suis d'accord que parfois, c'est incompréhensible de rester 5, 6, 7 minutes avant de reprendre une action.
Ah mais j'entends complètement Luc et je suis complètement d'accord. Enfin, c'est bien de pouvoir en débattre parce que c'est une évolution du foot qui est quand même hyper importante. En tout cas, pour revenir sur cette action-là, Thomas, en vrai, à vitesse réelle, c'est ça qui est dingue. C'est que moi, je trouve qu'on perd complètement, encore une fois, le moment. Et donc, c'est hyper important quand même ce qu'on ressent à vitesse réelle simplement. Et moi, je pense qu'il n'y a pas pénalty à vitesse réelle. Voilà. Et puis on revient. Et là, quand tu vois les images, mais Ganago passe le ballon avant, il y a contact, on est dans la surface, et donc il y a pénalty. Donc, et c'est ça que je comprends pas. Et du coup, même moi, j'ai une relation hyper ambivalente avec cette action, parce que si je dis, comme je suis en train de le dire, que le VAR ça sert à rien. Je ne cite pas pénalty tout de suite. Et donc, c'est une mauvaise décision vu le VAR. Mais finalement, lui, il n'apprend pas quand même de bonnes décisions. Donc, voilà. ça reste quand même très, 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 très particulier. Voilà.
C'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est à l'appréciation de l'arbitre, encore. Et c'est ce qui devrait, effectivement, pour nous, être la clé. C'est-à-dire, il peut apprécier l'ensemble, comme tu l'as fait. Moi, à mon avis, à vitesse réelle, il a considéré qu'il n'y avait pas péno. On l'appelle, il vient voir, il voit qu'il y a faute, mais il reste sur son impression qu'il n'y avait pas pénalty. Bon, c'est un choix humain qui n'est pas rationnel, honnêtement.
Ouais, qui n'est pas rationnel.
Il faut conclure là-dessus.
Non, mais juste pour terminer là-dessus, alors, enfin, moi je comprends tout à fait l'argument de Luc, en fait, de minimiser le nombre d'erreurs et de tendre vers un zéro défaut. Mais là, pour moi, c'était clairement pas zéro défaut. Enfin, je vais juste vous donner un élément, c'est que les journalistes avec qui on a parlé, donc nordistes et niçois, après le match, étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait pénalty. Et les confrères de RTL et de RMC qui étaient à Paris, donc les émissions, étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait pénalty. Donc il y avait, à mon sens, évidemment pénalty.
Ok. On va passer au carton rouge pour ce match. On va faire rapide dessus. Amaury, ton carton rouge sur ce match.
Je vais dire Yannick Cahuzac pour la perte de balle sur le but.
Ok. Greg.
Ignatius Ganago pour l'ensemble de son œuvre, parce que ça a été quand même. Au-delà de ça, en ce moment, c'est très compliqué pour lui. Ouais. Voilà. Et puis juste aussi Ismaël Bouhara, parce qu'il se fait un peu croquer sur ce dribble, un peu naïvement. Voilà.
C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans le chat, hein, des gens dire qu'effectivement pour Ganago c'est un peu dur, un peu dur en ce moment. Voilà, on espère retrouver l'ignatus du début de saison. Sam, ton carton rouge.
Juste pour rebondir sur Ganago, c'est tout à fait vrai. Je vais dans la même direction. Simplement, s'il y a penalty et il y avait penalty, et s'il le marque, on a une vision différente. Mais bon, voilà, Je comprends l'argument. Je vais mettre pas un rouge, mais un petit jaune à Franck Haise pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Voilà, je pense qu'il y avait certainement mieux à faire par rapport à la gestion de Kakuta, en fait, tout simplement.
Franck Haise démission ? Non, je plaisante. Évidemment. pardon. On va noter.
Juste, je rebondis Thomas aussi. En fait, sans tomber dans une forme de sinistrose et de fatalité, j'ai ressenti également que Franck Haise reconnaissait une forme d'impuissance devant ce qui lui est imposé depuis quelques mois, en fait, maintenant. C'est-à-dire, c'est des équipes qui jouent bloc bas. C'est-à-dire qu'il a reconnu là, très, très, très manifestement, très, très concrètement, que son équipe n'y arrivait pas face au bloc bas. Et disons que, effectivement, sur les matchs qui vont arriver, la grande question, ça va être, est-ce que, il va finir par trouver la clé, par un changement tactique, par simplement mieux faire jouer ses joueurs face au bloc bas? C'est quelque part, c'est, parce que l'enjeu maintien, bon, je pense qu'il est acquis, c'est maintenant savoir où, à quelle place va terminer le Racing. Et pour terminer, voilà, 6, 8, 10, ça va être cette capacité à trouver la solution, dans ces cas-là.
C'est embêtant quand on est, en tant que supporter, trop bien habitué. C'est là que ça devient compliqué. On va juste noter un joueur très rapidement également. Je vais vous demander de noter le match de Florian Sotoka, éblouissant face à Marseille. Est-ce que Florian Sotoka... Qu'est-ce qui s'est passé pour Florian Sotoka sur ce match? Allez, Greg, pour commencer, mais rapidement, on va vite faire un tour.
Ouais, moi, je lui ai mis 5 dans la voie du Nord. Ouais. Ça aurait pu être un peu moins, ça aurait pu être un peu plus, mais la seule vérité, il traverse un peu les matchs sans avoir de possibilité en ce moment à domicile, notamment de marquer, parce qu'encore une fois, je répète juste ce que j'ai dit tout à l'heure, il dézone beaucoup pour essayer d'amener sans compter les retours défensifs où à un moment donné, quand même, sur une contre-attaque, il allait deux fois plus vite que Medina pour revenir. Il est venu faire un tac au côté droit et Medina était, alors je sais pas, je pense que Facundo Medina c'était juste après sa petite alerte sur au genou droit, mais c'était hallucinant de la différence entre l'un et l'autre dans le retour. Donc il se dépense beaucoup, Sotoka, il dézone beaucoup pour donner des solutions, mais on aimerait parfois surtout plus le voir dans la surface pour être à la réception des centres s'ils étaient bons, et ce qui n'était pas le cas samedi. Voilà,
un peu joueur multifonction cette année, hein, Florian Sotoka. À Moritz, sa note?
Oui, 5, ça me paraît bien. Ce qui m'embête, c'est que pour un attaquant, il tire pas une seule fois au but. Il a une position moyenne sur le match qui est à la même hauteur que Yannick Cahuzac. Donc vraiment, c'est pour illustrer ce que disait Greg. Ça, c'est vérifié, hein. C'est pas une impression. Donc c'est très bien, cette bonne volonté, c'est hyper bien. Mais ce qu'on demande à un moment donné à un attaquant, c'est de mettre des pions et donc d'être dans les surfaces de vérité.
Pour info, Papy Gomis a mis la même note que toi, Florian Sotoka, 5 aussi, voilà, je le dis. Sam, toi, ta note?
Je vais terminer, je vais faire comme les gars, je vais mettre un 5 et dire, reconnaître qu'effectivement, comme à chaque fois, il donne énormément défensivement, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu offensivement, en fait, tout simplement, pour un attaquant.
C'est ce qui se passe, et globalement, hein, le chat est assez de cet avis-là, avec des 5 qui tombent et un match ni bon ni mauvais. C'est le verdict qui est donné pour Florian Sotoka. On va tout de suite passer à la mi-temps et au quiz de Culture Sans Heure. Alors, le quiz me paraissait évident aujourd'hui. On reçoit un ancien président du RC Lens. Donc, je vais vous demander quels ont été les 10 derniers présidents du RC Lens, en commençant évidemment par poser la question à notre invité, Luc Daillon.
Les 10 derniers présidents du RC Lens.
Vous ne pouvez m'en donner qu'un seul.
Gervais Martel.
Ça passe. Vous restez dans la compétition. Sam.
Joseph Ougourlian.
Bien joué, Greg.
Oudard, je sais plus.
Oudard, ça passe, alors là, c'est audacieux. Il n'y avait plus facile, hein. Il y en a un qui est connecté en ce moment avec nous, mais bon, Amaury.
Moi, je suis toujours un mec qui cherche la complexité, Luc Daillon.
Non, mais c'est pas possible de jouer comme ça.
Mais... je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a eu comme président vers Célance, je sais pas. Là, je cale.
Bon, Luc, vous calez, vous sortez du jeu.
Un peu trop loin, oui.
Ouais, c'est compliqué, mais il y a quelque chose de simple, mais bon, Sam. Il reste
J'ai envie de dire Hafiz, mais.
Non.
C'était Gervais. C'était
encore Gervais. On parlera d'Hafiz, hein, tout à l'heure. Donc, Sam, tu sors du jeu, Greg.
Ouais, c'est compliqué, là.
Il y avait
comme ça.
Monsieur. Non, c'est le président de l'association, monsieur Desfontaines, comment il s'appelait?
Oui, c'est ça, ouais, qui était
Jean-Pierre. Luc me coupe par tout le pied, c'est le seul que j'avais. Luc,
ah, merde.
Je veux dire monsieur Desfontaines?
Bravo Greg, bien joué.
Ah, il est trop fort.
Amaury.
Pour la petite anecdote, Jean-Pierre Desfontaines habite à 500 mètres de la maison et du coup, je l'avais, il était cadeau pour moi celui-ci.
Ah, ouais. Et quelques barbecues ensemble. Et du coup, Amaury, je peux te donner un indice parce que Greg en a eu un. Il est encore
dans le... J'ai jamais d'indice, moi.
Il est encore dans l'organigramme du RC Lens. Il est très important, RC Lens, mais il a été président un tout petit peu, en 2018.
Non, mais attends, c'est pas possible.
Arnaud Pouille.
Arnaud Pouille, ouais. Arnaud Pouille. Bon, c'est Greg qui l'emporte, mais c'est pas ta plus belle victoire.
Non, c'est pas celle dont je suis plus fier, hein, que les choses soient
claires.
C'est intéressant, il y a quoi comme autre nom, du coup, Thomas ?
Après, à raison d'une victoire par semaine, forcément, des fois, on n'est pas toujours. Il y a des belles et des mauvaises victoires, mais encore une fois, force est de constater que, quelles que soient les conditions, je m'impose. Voilà.
Sachant que je veux juste dire les coulisses de l'émission, et après, je donnerai les noms des autres présidents. Hein, j'ai un certain Samuel D qui m'a envoyé un message pour me dire faut trouver quelque chose pour piéger Greg. J'en ai marre qu'il gagne à chaque fois. Voilà, je le dis, hein, je donne un petit peu la popote. Donc, il y avait Jean Bondou qui a été président très longtemps et plusieurs fois à RC Lens. Jean-Pierre de Fontaine, on l'a dit, René Houdard, tu l'as dit, Greg, Jean Onvaux, Albert Huss, voilà, c'était les 10 derniers présidents. C'est compliqué, hein, on a forcément les 4 derniers dans la tête. Et donc, je l'ai dit à Arnaud Pouille, il a été en 2018 hein, par une espèce d'intérim, on va dire, entre lui et Joseph Ougourlian. Voilà, on parlait de président, on va parler d'un président avec la deuxième partie de l'émission de Culture Sang et Or. Alors, Luc, encore merci hein, d'avoir accepté notre invitation. C'est le moment de passer au gris, hein, comme je veux dire.
Allons-y.
Non, ça...
Hey, comme dirait l'autre, on en a vu d'autres. Parce que quand je suis arrivé à La Gaillette le premier jour, j'ai réuni tout le monde avec le crédit agricole et tout. Je n'emmenais pas large quand même.
Alors, ça me donne très envie d'en savoir un peu plus. Enfin, je vais les faire rapidement. Je pense que tous les supporters le savent. Donc, à la fin de la saison 2012, qui était assez catastrophique, le Crédit Agricole fait appel à vous pour occuper la fonction de président du RC Lens. L'idée était globale de faire une transition, hein, de maintenir le club financièrement et sportivement pour permettre de le revendre. Hein, une revente qui a été faite donc auprès de Gervais Martel avec l'appui de Hafiz Mamadov. Du coup, oui, Luc Daillon, parlez-nous de ce premier jour quand vous êtes arrivé à La Gaillette. Qu'est-ce que vous a dit ?
Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Rien. J'avais un peu anticipé, donc j'avais demandé à ce qu'on réunisse dans l'amphi tout le monde, les salariés, les joueurs, il y avait aussi les gens des associations de supporters, et ensuite pour se présenter, d'abord c'est la moindre de choses, expliquer la situation, affronter le fait que j'ai été président de Lille, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui, je le savais, pouvait être problématique. Même si on avait joué avec Lille à Lens à l'époque et que moi j'avais gardé d'excellentes relations avec les dirigeants et des amis à Lens, mais honnêtement, effectivement, j'en menais pas large parce que c'était le premier jour où Gervais n'était plus président. Je connaissais la situation financière, je connaissais l'étendue de la tâche puisque le Stade Bollard était dans un état désastreux. Il y avait aussi une banque, moi je sais pas. Particulièrement ami nécessairement avec des banquiers, mais enfin il y avait une banque qui était là et qui mettait de l'argent et qui se demandait comment faire et qui s'est posé la question à un moment donné de savoir s'il fallait pas couper. Donc il fallait reconnecter tout ça, et ce premier jour était très important. Je suis arrivé avec Antoine Sibersky, qui adore le club de Lens, en qui j'ai une grande confiance, qui en même temps faisait le lien avec les anciens, et je me rappelle de ce premier jour là vraiment avec beaucoup d'émotion, parce que je me dis, j'étais pas sûr de que ça prenne. Il fallait que le discours passe, que les gens comprennent la problématique, et je savais tout ce qui m'attendait, donc voilà. Mais c'est un moment avec le recul que j'apprécie, bien sûr.
En plus, vous avez succédé à Gervais Martel, un président historique du club. Est-ce que Gervais Martel, quelque part, a tout de suite pensé que vous étiez la personne idoine, comme il aime dire pour...
Gervais, il m'a dit, si ça n'avait pas été toi, je leur aurais mis le feu. On se connaît avec Gervais. Je pense que il y a eu cette rivalité à l'époque de Lille. Moi, je suis un personnage un peu atypique dans ce monde-là. Je lui avais déjà dit à l'époque, on était à l'UCPF, qu'il fallait penser aux relégations. Il me dit, mais Lens descendra jamais. Enfin, voilà. Mais donc, je suis quand même atypique. Mais il sait que je suis droit. Il sait que j'aime les gens, que j'aime les clubs, en vrai. C'est-à-dire, mon parcours se comprend parce que moi, c'est les clubs que j'aime. J'aime l'importance qu'ont les clubs de foot dans une ville. J'aime le lien entre les différentes parties, toute cette complexité. J'adore le football. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et donc, je pense que le fait qu'effectivement, ce lien avec Gervais a probablement aidé aussi à ce que pendant cette période extrêmement compliquée, le club n'explose pas. Moi, j'ai fait attention aux mots que j'ai prononcés. Après, j'avais la connaissance de toute la problématique financière, de toute l'historique, mais je suis pas ni une balance, ni quelqu'un qui est là pour redresser des torts. J'étais là pour faire une mission bien particulière, qui était de trouver les conditions pour que ce club puisse, un, rester en vie, deux, créer les conditions pour qu'il puisse repartir avec ou sans Gervais. Ça m'a passionné. Honnêtement, parce que c'était un moment clé de l'histoire du club et c'est un des dossiers dont je suis le plus fier en réalité, parce que je me rappelle de la suite des décisions, de l'enchaînement. Il fallait aussi convaincre au Crédit Agricole les sociétaires de faire un certain nombre d'efforts. Il fallait expliquer les choses. Il fallait voir les politiques pour la rénovation de Bollard. Mais le fait que j'ai été extérieur a probablement facilité les choses, parce que moi j'avais pas d'intérêt, comme mes missions elles sont claires, elles sont déclarées. Je suis pas là pour m'approprier ni une fonction de président ni une richesse.
C'est une vraie mission quoi. C'est une mission.
Donc à ce moment-là je fais au mieux, hein. Je suis pas Superman, mais je l'ai fait avec beaucoup d'engagement et de conviction et ça a fonctionné. On a réussi à au moins maintenir le club en vie, faire voter les travaux de Bollard, c'était indispensable, et créer les conditions à terme que le club reparte. Alors après, tout ce qui s'est passé derrière était totalement imprévisible.
On va en parler. Hein. Et avant de donner la parole à Greg, qui a une question à poser à Luc, je voulais savoir, donc vous êtes dans votre CV, hein, il y a la ligne sauveur de club, parce que c'est pas seulement pour le RC Lens que vous l'avez fait, mais qu'est-ce qui change entre faire cette mission au RC Lens plutôt que dans un autre club?
Écoutez, il y a des clubs comparables. Il y a des clubs dans lesquels je me suis senti bien et dans lesquels, quand je suis arrivé, je me suis senti à l'aise, que ce soit avec les salariés, avec l'environnement, avec l'histoire du club Nantes, par exemple. Ouais. C'est un club où je me suis senti extrêmement à l'aise, très vite. C'est un dossier compliqué, j'ai eu à gérer dans l'urgence, pareil, mais c'est un endroit où j'ai du plaisir, où je me suis fait des amis, où j'ai gardé des relations avec les salariés, et le club a une importance à la fois pour le foot français et pour son environnement. Et ouais. Vous avez ça dans certains clubs. Il y en a où vous avez moins cette charge émotionnelle. Par exemple, Nice est un club que j'ai effectivement sauvé, mais il se trouve que j'étais à Nice. J'étais à l'époque président de Lille, actionnaire, sans me chercher. C'était un de mes premiers dossiers de sauvetage. J'en ai fait un certain nombre comme ça, mais je réponds à la demande, si vous voulez. C'est qu'on fait appel, quand on m'appelle sur Valenciennes, je vais à Valenciennes, on m'appelle à, Mais j'ai ma vie en dehors de ça. Mais il se trouve que c'est quelque chose qui est complètement atypique.
Et surtout quand c'est après Gervais Martel, quoi. Il fallait se positionner sur le fait, je suis l'ambition, ce n'est pas le même genre de pression.
Mais le fait d'avoir été à Lille, de connaître Gervais, de connaître l'histoire de Lens, d'avoir échangé, de connaître les joueurs, de connaître l'environnement, m'a beaucoup facilité les choses quand même. Le Nord, moi j'ai quand même passé pas mal de temps, même s'il y a des différences entre Valenciennes, Lens et Lille, vous retrouvez aussi le même personnel politique. Par exemple, Daniel Percheron, je le connaissais pas, mais quand j'étais à Lille, il savait ce que j'avais fait à Lille. Et donc après, ça crée aussi des climats de confiance. Je pense que d'ailleurs Michel Farou me l'a dit, ils m'ont choisi parce que j'étais passé à Lille et que les gens avaient gardé la trace de ce que j'avais vraiment fait à Lille, y compris les décisions impopulaires que j'avais prises contre qui ont sauvé le club quand Ali Lodji est devenu dingue et que je l'ai viré, et qu'avec l'argent de Ligue des Champions, on a construit le centre de formation, où j'ai fait venir d'autres actionnaires. C'est ça qui a créé les bases de Lille. Et les gens qui étaient dans l'intimité de ces décisions-là, ils savent que c'était des décisions que j'ai prises moi, y compris jusqu'à me séparer de mon associé, Graille, et ainsi de suite. J'aime les clubs. Moi, ce qui me rend dingue, c'est quand les clubs se mettent, ou quand les dirigeants mettent les clubs dans des situations intenables, jusqu'à les faire exploser. Et quand ils explosent, regardez Bastia ou d'autres, Strasbourg, qui descendent de 5 divisions, c'est une catastrophe.
Je profite de lire un petit message du chat avant de donner la parole à Greg. Il aura quand même fait un sacré boulot en sous-marin. Respect, monsieur Dayan. C'est Julien Carlier qui fait ce petit message. Greg, ta question pour Luc Dayan.
Oui, Luc, vous parliez de décisions impopulaires, c'est jamais simple. En plus, c'est vrai, vous arriviez après Gervais Martel, ce qui est quand même c'est très compliqué. Il y en a une qui reste encore dans l'idée des supporters de Lens. Expliquez-nous, c'est cette idée d'avoir fermé la tribune Tralin. Vous parliez d'un bollard qui était à l'époque apparemment un peu obsolète, qui c'est vrai vieillissait, ça c'est vrai. Et vous aviez fermé la tribune Tralin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, parce que c'est vrai que ça reste très ancré dans. C'est bizarre, ça peut paraître une petite décision, mais les gens se souviennent de ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
rien pour rien cacher, on avait cette question chez nos auditeurs. Hein. Donc,
je vais vous dire les choses comme elles se sont passées, et c'est pas pour me défausser. Rappelez-vous, il y avait un directeur général à l'époque qui avait été nommé par le Crédit Agricole, qui était là avant moi, qui s'appelle Gérard Lévesque, et qui était un directeur général mandaté par le Crédit Agricole et qui avait, quand je suis arrivé, préparé un certain nombre de décisions. Et dans les décisions que vous prenez quand vous arrivez là, vous êtes obligé de composer avec l'existant. Parmi les décisions, il y avait des décisions de ce type. J'aurais pu aller contre, hein. J'aurais pu aller voir Michel Farou en disant c'est contre. Mais il y a aussi une notion d'équilibre et de paix sociale qu'il faut que je fasse. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, avec Gérard Lévesque, à la fin, c'est très mal passé. C'est-à-dire que il y a eu un moment où c'était trop et il y a eu un vrai clash. Mais dans notre cuisine interne, il y avait des moments où on n'était pas d'accord et il y avait des moments où j'ai cédé et des moments où j'ai pas cédé. Donc voilà la réalité de cette décision-là. Je peux pas vous dire autre chose, ça s'est passé comme ça.
Luc, il y a une autre décision qui par contre était beaucoup plus populaire que peut-être certains ont oublié. C'est ce jour et en plus l'actualité nous ramène à ça, c'est-à-dire qu'il y a le match de Coupe de France qui va arriver entre Nantes et Lens, entre deux clubs que vous connaissez bien, qui va se jouer un mercredi à 14h45.
C'était pas Bordeaux.
Si, voilà, j'allais vous parler de ce quart de
finale. C'était pas Lens-Bordeaux le mercredi, oui, où il a fallu que je me bagarre.
Donc rappelons quand même ce qui se passe, c'est-à-dire que France Télé veut absolument diffuser le match, comme ce sera le cas d'ailleurs là prochainement, et c'est un quart de finale, c'est certainement le seul moment où cette équipe elle
fait un match de guerre extraordinaire. Un moment festif où on avait vraiment envie de retrouver Bollard plein, c'était le seul moment où c'était possible en vrai.
Et donc, ils se battent. Vous étiez battu, je rappelle, vous étiez battu pour que le match soit décalé plus tard pour remplir Bollard. Vous aviez fait Bollard à une place, c'était 10€ la place, quelle que soit la tribune. Et on avait vécu certainement à Bollard, en tout cas, l'une des plus grosses. Si ce n'est la plus grosse. D'ailleurs, premier match de Benjamin Bourigeaud sur le banc du RC Lens. Il s'en souvient beaucoup. Il m'en a parlé cette semaine. Il s'en souvient encore. Une énorme ambiance.
Je crois que c'est la première fois que j'ai parlé avant le match dans le vestiaire. C'est comme elle dit, ce serait bien, Luc, parce que les joueurs, moi, c'est rare que je m'exprime vis-à-vis des joueurs ou autres. Et je crois que c'est la première fois où je suis allé dire, écoutez, on va jouer au foot, vous prenez pas la tête. Enfin, quoi, c'est un moment de liberté. On a tous rêvé de jouer au foot dans des stades pleins et ainsi de suite. Cette équipe-là avait la chance de pouvoir faire un match devant Bollard. Voilà, donc je me souviens très bien avoir dit ces quelques mots avant ce match. Oui, effectivement, il a fallu que j'appelle Noël Le Graët. Ça a été une grosse bagarre.
Luc, en définitive, le match n'avait pas été retransmis. D'ailleurs, France 3, après avoir vu le match perdu 3-2 par Lens dans une ambiance extraordinaire, a dû se dire, bon, on a peut-être loupé quelque chose. Mais est-ce que c'est à dire que dans le monde d'après qu'on est en train de vivre, là où le foot se pose des questions, le tout droit télé existe encore, c'est-à-dire que c'est pas justement des expériences comme ça qui doivent dire, on doit aussi prendre en considération l'environnement et pas seulement l'idée de faire plaisir aux télés et donc de réfléchir aussi à des horaires adaptés, parce que c'est vraiment d'actualité ce qui se passe, c'est-à-dire que le foot est en train de se réinventer. Est-ce que c'est pas l'occasion de se réinventer
en train de se réinventer. J'aimerais bien qu'il se réinvente, moi pour l'instant je vois pas trop qu'on repense beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'on s'est dit quand on a parlé avant pour préparer l'émission. Il y a beaucoup de choses à faire. Faut repenser la propriété des clubs, faut repenser les formules de compétition, faut repenser le rapport à la télévision, c'est-à-dire à quoi ça sert vraiment, comment ça a commencé, et effectivement faut se reposer la question. Et surtout pour moi, j'ai 63 ans, mais pour les générations qui ont 20, 25, 35, 40 ans, le rapport au football, il est pas nécessairement celui que moi j'ai eu. On n'a pas vécu la même chose, la façon d'aller au stade, la façon de consommer, la façon d'aimer ça, la façon de le comprendre. Moi, je pense que il faut vraiment qu'on se repose des questions fondamentales, et notamment devant ce genre de décision-là. Peut-être que la bonne décision pour le foot serait de dire, on fait plus de télé pendant un moment pour juste redonner l'obligation ou le plaisir aux gens de venir. et de ne pas voir le voilà, on a été gavé de foot. Les chaînes ont diffusé du foot partout comme un robinet à images du foot. C'est une indigestion de football, ce qui fait qu'on n'arrivait même plus à distinguer les matchs les uns des autres, quoi. Donc il y a eu plein de, comme ça depuis 15-20 ans de à mon avis de fausses pistes ou de en tout cas de faits qui font qu'on est maintenant dans une période de sidération où avec le Covid plus le problème sur la droite télé, ça vaut le coup de se dire ok, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, y compris quand on parle avec les joueurs, hein. C'est-à-dire que les joueurs qui effectivement ont gagné beaucoup d'argent, mais ou les entraîneurs, ils aiment le foot aussi et même beaucoup, mais ils sont pris dans un système, donc ils produisent ce qu'on leur demande de faire, mais en vrai quand on les interroge, peut-être qu'il y a aussi autre chose à repenser, parce qu'en vrai une équipe de foot, tu choisis de jouer avec qui tu as envie de jouer au foot à la base. Là, tu choisis plus rien. Tu passes d'un club, tu vas à l'autre. Voilà.
Bon. Avant de donner la parole à Sam, j'ai juste une question de nos auditeurs. Maxime Lombard sur Facebook qui nous demande quel est votre avis sur les nouvelles politiques lensoises.
Alors moi, je suis vraiment... d'abord, j'ai la chance de connaître Joseph Ougourlian depuis avant même qu'on sache qu'il était l'actionnaire principal. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement. La façon dont l'équipe... Alors, l'année dernière, avec des amis, on a produit une série de documentaires sur le RC Lens. Donc, on a pu voir aussi de l'intérieur comment fonctionnait le club et le ressentir. Et je trouve que moi j'ai toujours dit que ce qu'on voit sur le terrain, c'est le reflet de l'environnement. C'est les façons dont une équipe s'exprime, c'est le reflet de la façon dont le club vit et fonctionne, et notamment dont les dirigeants pensent, échangent avec les autres, y compris les journalistes, y compris voilà. Et moi je trouve que cette équipe là, cet actionnariat là, cette équipe, ce management là, est d'une grande qualité, très adaptée à ce qu'est le nouveau Lens, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est la première fois où on a un Lens qui n'a pas perdu ce qu'on appelle ses valeurs, sans GRB, sans des anciens, sans des historiques, et tout en ayant l'impression qu'on a toujours... et donc, ça veut dire que ce qui a été déclaré, parce qu'on déclare tous, hein, faut pas perdre, est fait. Ça veut dire que c'est probablement la façon dont ils gèrent les relations avec les joueurs, avec les agents, avec les familles des agents, avec les salariés, doit être de qualité pour qu'on ait ça sur le terrain. Voilà moi ce que je ressens. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que l'avenir me démentira, mais je pense que c'est pas un hasard qu'on ait cette qualité sur le terrain, cette qualité de comportement des joueurs. Je pense que c'est la qualité de l'équipe dirigeante.
Et Sam, désolé, juste avant ta question, on a Priscilla qui demande rapidement si il y aurait une saison 2 au documentaire Lens de sang et d'or.
Ben, on aurait bien aimé, on s'est battu, mais on n'a pas réussi à trouver. Déjà, pour vous dire, la saison 1, on a perdu de l'argent. Ouais. Donc, on a assumé. Et la saison 2, on n'a pas réussi à la prévendre. Et donc, par contre, on produit un documentaire unitaire sur l'équipe féminine. On a réussi à vendre à Canal. Et donc, c'est en cours. Simplement, comme la saison est arrêtée, pour l'instant, on n'a pas trop de parties foot. Mais je pense que ça plaira aux gens. L'angle féminin du club, avec cette équipe qui s'est constituée, l'importance des femmes dans le Nord, même dans la vie du football, dans la vie des gens, je trouve que c'était intéressant. Voilà, on produit ça.
Samuel, désolé, je t'ai fait attendre beaucoup.
Luc, vous avez fait publier une tribune dans le journal Le Monde il y a une dizaine de jours ou une quinzaine de jours. Effectivement, sur l'aspect du foot français qui devait se réinventer, vous rappeliez le contexte qui est très compliqué effectivement actuellement avec le Covid et avec les droits télé. On ne sait pas trop comment ça va se terminer cette histoire. Et vous disiez qu'il y avait beaucoup d'investisseurs dans le monde du foot professionnel, bien, qui sont plus à se demander comment je vais faire pour sortir de ce guépier, plutôt continuer et investir si possible encore de longs mois, de longues années. Comment dans ce contexte, alors, je ne sais pas si vous avez eu des relations il y a peu de temps avec lui, mais comment vous sondez la volonté de Joseph Ougourlian de continuer à soutenir le Racing Club de Lens?
Ben, Joseph, cette année, si elle s'était passée normalement, son concours financier n'aurait pas été. Au contraire, il aurait tiré le fruit des risques et des investissements qu'il a fait les années précédentes. Là, effectivement, il y a cette problématique-là. Je sais qu'il est, il est très concerné par l'ensemble de la problématique. D'ailleurs, dans ses affaires, il est associé avec Vivendi sur le dossier de Lagardère. Donc, il est concerné par ça, mais en même temps, il couvre le système français. Comme beaucoup, je sais que quand je lui disais comment les droits télé avaient évolué en France, je sais qu'il m'entendait, mais qu'il m'écoutait pas vraiment parce qu'il me disait, putain, tout le monde me dit le contraire. Il connaissait les dirigeants de Mediapro et tout ça. J'ai dit, Joseph, moi, c'est des choses que j'ai vécues en vrai. Donc, j'ai vécu Canal au début, j'ai vécu l'histoire TPS, j'ai vécu les pertes de TPS, l'absorption de TPS, l'arrivée d'Orange qui a perdu 1 milliard, l'arrivée de Bein sur intervention publique. J'ai dit, attention, cette histoire-là, elle ne correspond pas à une réalité économique. C'est vrai que c'est peu audible pour beaucoup de gens, mais malheureusement, les faits m'ont donné raison. C'est-à-dire que depuis 20 ans, comme je l'ai écrit, on a oublié ce qui avait fait le fait que Canal+ génère des abonnements en filmant du football, à savoir faire partager une émotion, un plaisir, et on s'abonnait pour aller voir quelque chose qu'on voyait pas ailleurs, mais qu'on partageait. Ouais. Mais sur 20 ans, c'est devenu un marché, des bulles, des droits télé, des appels d'offres, des spéculations, les joueurs, on a changé en vrai d'univers. Et là, tout d'un coup, comme au moment de la crise des subprimes, on se rend compte du système pyramidal dans lequel on était, y compris sur les joueurs, les ventes de joueurs. C'est-à-dire que les prix ne font que monter, les salaires ne font que monter, les recettes ne sont pas avec, mais tant que ça tourne, on se rend pas compte. Le jour où ça s'arrête, voilà. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Donc, pour en venir à Joseph, il assume vraiment sa position d'actionnaire, parce qu'il faut bien vous rendre compte que quand il n'y a pas de recettes, pour payer les charges courantes, il faut mettre de l'argent en compte courant. Ça veut dire que c'est de l'argent de son compte personnel qui va et qui descend. Donc c'est vraiment très honorable. Après, le club, une fois que le Covid sera en tout cas circonscrit et qu'on reviendra dans une saison normale, Lens est un club qui fait des vraies recettes. Et la politique salariale, elle est maîtrisée. Donc c'est un club qui normalement doit être profitable, et il faut que le club soit profitable. Ça veut pas dire que Joseph va se distribuer des dividendes. Ça veut dire que le club doit avoir des réserves et constituer des réserves pour ensuite repasser à une nouvelle étape de son développement, parce qu'effectivement Lens peut tout à fait légitimement postuler aux 5 à 8 plus gros budgets français, mais ça se fait par étapes. Et là, tout le monde se demande comment va se terminer l'appel d'offres sur les droits. Très important, là, ce qui va se passer, parce que ça va conditionner tout le business plan des clubs pour les 4 années qui viennent. Sans parler du fait que les clubs ont fait des PGE, donc ont emprunté. Donc, ils ont augmenté leur endettement. La position d'actionnaire en ce moment, honnêtement, elle est pas facile. Hein.
Amaury, une dernière question, peut-être?
Ma question va être un peu complexe, mais Luc, si je reprends un peu tout ce qu'on vient de se dire, on a des recettes de transfert qui vont quand même, je pense, être en décroissance de manière assez forte. On a une billetterie qui est inexistante. On a des droits TV qui sont quand même là assez incertains. On sait que pour certains, ça peut représenter 60% du budget. On sait aussi que sur la partie droits télé, c'est souvent quand même des interventions politiques qui ont fait que Orange est arrivé, que Beansport est arrivé, avec notamment Sarkozy pour l'opacité. Pour vous, la sortie, elle est où? Comment on peut faire?
C'est une restructuration complète qu'il faut faire. Là, c'est pas un club qu'il faut restructurer, c'est l'ensemble du système.
Un système qui est conservateur en plus.
Comment?
Il faut 20 Luc Daillon en fait là.
Non,
qui est conservateur en plus.
Non, il faut faire partager une vision de la gestion et de l'économie du football par l'ensemble de ceux qui sont concernés par le football professionnel. Et au lieu de se cacher, il faut que tout le monde soit là, se dise les choses, y compris les agents, hein, je parle dans l'ensemble, et de se dire qu'est-ce qu'on veut pour le football en France? Qu'est-ce qu'on veut pour le football professionnel en France? Je parle pas du football amateur, qu'est-ce qu'on veut? Il y a des infrastructures, il y a des clubs, il y a des trucs, qu'est-ce qu'on veut et où on veut aller et comment est-ce qu'on peut arriver à le faire? C'est très utopique de pouvoir dire ça parce que il vous a pas échappé que pourquoi est-ce que ce système est chaotique? C'est que les gens, ils ont des intérêts convergents pendant un moment donné, mais en même temps, ils se font la compétition toute la journée, les uns avec les autres. Donc, c'est très compliqué de faire résonner tout le monde au même moment, parce que il y en a qui voient dans la faiblesse des uns une opportunité pour eux. Ceux qui sont solides en ce moment se disent, tiens, si Saint-Etienne s'effondre, si machin, ben moi, c'est mieux, je vais monter à la 5e place.
Ouais. Donc,
le vrai problème de la gestion de ces entités-là, c'est d'arriver à aligner pendant un laps de temps donné les intérêts de tout le monde. Parce que en vrai, face aux droits télé, par exemple, tous les clubs ont les mêmes intérêts. Tout le monde a envie des plus gros droits télé. Tout le monde a envie que les spectateurs viennent au stade. Tout le monde a envie que les sponsors viennent et soutiennent. Ça, c'est collectif. Mais en même temps, ils sont en bagarre les uns avec les autres. Donc, comment créer les conditions de cette, ben, de ce que j'appelle un reset? Voilà. Moi, je pense que même dans la, là, je l'ai fait pour Bastia de façon expérimentale et le projet de loi va maintenant passer. Je pense qu'on peut gérer les clubs avec des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des sociétés au capital desquelles, quelle que soit la répartition du capital, vous avez toutes les familles concernées. Ça amène à la transparence. On est obligé de parler tous ensemble des budgets. Alors, il faut un représentant par typologie, parce que sinon c'est ingérable. Mais on peut, c'est un peu ce que je fais moi dans mon travail. Quand j'arrive, j'explique à tout le monde. Comme ça, tout le monde parle les mêmes chiffres, voilà, où on va, pourquoi, comment, pourquoi tel entraîneur, pourquoi tel machin. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut peut-être se pencher en ce moment. D'abord, on a un peu le temps, et puis surtout parce que ça va aller très mal si on repense pas un certain nombre de choses. Il y a des clubs qui risquent d'être réellement en faillite s'il n'y a pas des mesures fortes qui sont prises pour donner des perspectives à 4-5 ans. Parce que la solution, c'est des perspectives sur 4-5 ans. On va pas régler les problèmes financiers qui sont terribles à court terme par des solutions à court terme. Pour l'instant, les PGE, il y a un peu de trésor et ça brinque balle et on a ce qui va se passer avec l'appel des droits pour la télé. Ça, c'est la trésorerie. Mais de façon systémique, même si tu as un endettement, mais si tu sais sur 4-5 ans comment tu peux te remettre sur pattes, tu vas trouver des financements et des investisseurs et des repreneurs. Mais s'il n'y a
est-ce que ça induit pas de force une réduction du nombre de clubs en Ligue 1 pour réduire le nombre de parts du gâteau?
Je pense pas, moi. Moi, je pense que, moi, j'ai écrit ce que je pensais qu'il fallait faire, mais je sais que c'est inaudible. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait 48 clubs pro en France. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un championnat en deux phases. Une première phase régionale avec 12 clubs et une deuxième phase. Tout ça dans la même année et que chaque année, on recommence. Moi, je pense ça. Je pense qu'on doit sortir les centres de formation des clubs, on doit les régionaliser. Donc, je pense qu'il faut repenser complètement, l'équation. Bon. C'est pareil, peut-être qu'on y arrivera dans 20 ans. Mais moi, je pense ça. Je pense qu'il faut créer les conditions de la performance, mais pas sur 12 clubs ou sur 15 clubs, parce que ça, c'est à mon avis contre l'esprit de ce qu'est notre territoire. J'ai regardé, hein, quand j'ai fait ce travail très approfondi, je me suis rendu compte que comme club inscrit au championnat professionnel depuis la création du championnat professionnel, il y avait 78 clubs, dont Lille FIV, par exemple, qui n'existe plus. Voilà. Mais si vous prenez, quand vous prenez une carte de France, il y a 48 clubs professionnels, c'est beaucoup. Mais au moins, on sait qu'ils sont stables. Et on sait qu'ils ne sont pas mis en danger chaque année par une relégation. Regardez à Caen, là, ils font un PSE parce que le club est descendu de Ligue 1 en Ligue 2 et que voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a d'autres formules de compétition adaptées au professionnalisme, à la performance. Les centres de formation, je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé à Lens, bah, évidemment, je connaissais celui de Lille, je connaissais celui de Valenciennes, je voyais un peu comment était la région. Il se trouve que le Crédit Agricole, en plus, avait financé les trois. Mais quand tu vois le coût d'un centre de formation et le nombre de joueurs de qualité, de très haut niveau qui sort, tout ça, il y a un problème d'équation économique. Donc, qui en a profité? Ce sont les agents qui ont mis des joueurs, qui ont vendu ailleurs. Voilà. Donc, on peut parler de tout ça à l'infini, mais c'est une réforme très profonde qu'il faut faire. Et moi, je pense que je la verrai pas.
Bon. Ouais, et vous vous doutez que dans le chat, les gens n'aiment pas trop l'idée qu'on partage la gaillette avec le LOSC. Mais voilà, c'est une autre histoire.
Je n'ai pas dit qu'il fallait partager de la gaillette avec le LOSC. Hein. Je dis simplement que quand on regarde les coûts de la gaillette, parce que c'est facile de parler quand ça sort pas de votre poche. Ouais. Moi, j'ai été actionnaire à Lille, pas du tout milliardaire. Je suis ressorti parce que j'ai pas les moyens de rester dans cet univers-là qui est extrêmement dangereux. Si vous faites une mauvaise saison, il faut mettre des millions d'euros que je n'avais pas. Donc, je préférais revendre ma participation plutôt que de mentir à tout le monde ou de jongler. Voilà. Mais je dis simplement que quand vous voyez le coût des centres de formation cumulés et vous voyez la productivité, vous vous posez la question de la rationalité. Ça veut pas dire qu'il faut prendre un centre pour Lille et Lens. Je dis, il faut se poser. Et d'ailleurs, à l'époque, les gens de Lille m'ont appelé tout de suite en me disant, bon, on pourrait peut-être voir comment on peut rationaliser les choses parce que tout le monde est confronté à cette réalité. C'est un exemple, les centres de formation. Mais c'est vrai sur plein d'autres domaines. Et il est sûr que chaque club a envie de garder à soi ce dont il est propriétaire. Ça, je comprends très bien. J'ai pas de problème avec ça. Et en plus, moi qui ai fait le Tour de France, je peux vous dire que je comprends très très bien l'attachement des Nantais, des Strasbourgeois, des Niçois. Chacun pense que son club est le club le plus.
Bastia,
il y a un centre de formation. Oriani, c'est inimaginable que le club saute. Sauf que 30 millions d'euros de trous, rétrogradation en National 3, il n'y avait plus rien. Quand je vais mi-août là-bas, il n'y a plus rien.
Ouais.
C'est mort. Donc, il fallait une idée pour faire redémarrer un projet collectif à partir de l'existant. Mais quand vous êtes confronté à ça, ça aurait pu arriver à Lens. Hein. Il n'y a pas le Crédit Agricole. Lens aurait été en 5e division. Et là, on a beau dire, ah oui, ben zut, mais c'est trop tard.
On n'aurait pas été content, on n'aurait pas eu Ganago, on n'aurait pas pu parler de Mercato parce que j'ai fait tout aujourd'hui. Ouais, c'est une transition comme je peux. On a fait l'interview de Luc Daillon, on a parlé des droits télé. Petit point Mercato, je crée une séquence comme ça, ex nihilo, le point Mercato de Greg Lallemand. Greg, on a des news sur Radovanovic et un peu sur Clément Michelin peut-être.
Un peu sur Zaccaria Diallo, pardon.
Ah, on t'écoute, Greg.
Ouais, non, ben simplement c'est pas non plus des surprises. Il y aura pas de, probablement pas d'arrivée cette semaine au RC Lens. L'idée c'est évidemment d'alléger l'effectif et la masse salariale.
On en a parlé. Il y a une rumeur sur un latéral américain du New York Red Bull, Kai Duncan, pour remplacer Clément Michelin. Mais bon voilà, c'est une rumeur.
Ouais, en tout cas, moi je vais parler de ce que je sais, en tout cas des dossiers que j'essaie de maîtriser, que je pense maîtriser. On va dire que Zaccaria Diallo est en contact avec Châteauroux et Nancy. Alors c'est pas dit que ça se fera, mais ça peut être une belle porte de sortie pour lui et aussi pour le RC Lens, hein, parce que évidemment un salaire, même si sur 6 mois plus les charges, c'est toujours ça de gagner, comme ça a été le cas pour le départ de Cyril Bayala ou d'autres. Donc voilà, il y a évidemment Alexander Radovanovic. Alors hier soir, il avait 2 contacts belges, alors notamment Charleroi, plus un club espagnol. Là, c'est vraiment la tendance, c'est la Belgique pour l'instant. Maintenant, on verra. On en reparlera dans la Voix du Nord et dans la Voix des Sports aujourd'hui. Hein. On est plutôt sur une tendance à l'étranger pour Radovanovic. Le problème, c'est surtout pour les jeunes comme Adam Djani. Qui malheureusement, alors il peut pas jouer en équipe première parce que pour l'instant c'est compliqué de se faire sa place. Il n'y a pas de match en N2 en National 2 depuis quelques temps. Donc comment voulez-vous prendre du temps de jeu? Comment voulez-vous convaincre des clubs de National que vous pouvez être prêté? C'est vraiment une situation qui est alors inédite, mais qui est vraiment une grosse impasse pour tous les jeunes qui ne jouent plus et qui vont devoir tenter de convaincre qu'ils peuvent aller ailleurs. Donc voilà, c'est un peu les grosses tendances. Moi, je reviens juste une question juste par rapport. On parle des joueurs, des mercato, etc. Moi, j'ai un chiffre. Depuis 3 ans, les clubs français, Luc, vous allez pouvoir me le dire, ont dépensé 346 millions d'euros dans les commissions pour agents.
Ben voilà.
Alors, la question est notamment un club comme Strasbourg, qui en 2017-2018 a dépensé 2,5 millions d'euros juste sur les commissions d'agents. Est-ce qu'il faut un salary cap? Est-ce qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là dans cette période de transfert? Quel est votre avis là-dessus, vous qui avez dû gérer?
Je vais vous expliquer les histoires des commissions d'agents. Quand vous avez besoin de rentrer de l'argent et que vous avez besoin de vendre vos joueurs, parce que justement, vous n'avez pas de réserve et que vous êtes en déficit et que dans votre budget prévisionnel, vous devez vendre pour 15 millions de joueurs. Quand un agent vous demande une commission de 1 million ou 1 million et demi, mais qu'en même temps, un joueur que vous savez pas trop quoi en faire ou qui vaut 7 millions et vous le vend 15, bon, vous lui donnez son million de commission. Je veux dire, c'est que ceux qui font la loi économique, ceux qui régulent le système, c'est les agents. Et c'est ça qui, pour moi, est inadmissible et en même temps fait partie du système, parce qu'à un moment on a accepté les transferts et qu'on a accepté ce système-là, que les dirigeants ont accepté d'être dépendants de ce poste de recette. Là, à ce moment-là, il faut accepter de payer ceux qui font que vous pouvez faire ces recettes-là. Quand vous faites, quand j'arrive dans un club comme Lens en grosse difficulté où il y avait par exemple Kondogbia à l'époque, ça bougeait, ceci, cela. Là, je vous rappelle même plus quel était l'agent. C'est Sévi qui l'a acheté. Il y avait un fonds à l'époque. La tierce propriété était autorisée. Bon, ben, si on vous demande une commission de 500 000 euros et que vous rentrez 4 millions et demi, vous donnez les 500 000 euros. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas la sortie. Vous n'avez pas la sortie à l'équation financière. Parce que, voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ceux qui sont les intermédiaires là gagnent beaucoup d'argent. Parce que le système est mal organisé, mal régulé et qu'effectivement, il n'y a pas de salary cap. Parce que pour qu'un joueur accepte de changer de club, il faut qu'il ait un salaire supérieur. Sinon, il ne part pas. Donc, et c'est pour ça que je le dis depuis longtemps, mais c'est pourtant, je vous dis, j'ai pas fait de finance, hein, je suis médecin à la base, mais c'est tellement évident que quand vous faites une rupture de contrat à durée déterminée, le salarié qui a le contrat à durée déterminée, il n'accepte sa rupture que s'il a un salaire supérieur. Donc, c'est inflationniste. Les recettes n'augmentent pas en proportion. Donc, à partir de là, après, on a créé ces conditions-là, faut pas se plaindre, que les agents se gavent, que les clubs s'appauvrissent, que la qualité du jeu baisse, parce que on n'a pas su créer les conditions, c'est ce que je vous disais, à la base, quand on est rentré dans l'économie du spectacle, de dire faut modifier les règles économiques, sinon on va faire péter le système. Les Américains, qui sont quand même les gens les plus libéraux au monde, d'accord, ils ont bâti, après la faillite de leur club, le système le plus communiste qui soit, la NBA ou tous ces systèmes de ligues, avec des règles économiques drastiques, où mais celui qui déroge, il est expulsé, il perd sa franchise. Il faut en réalité protéger les dirigeants contre leurs propres dérives. C'est le système qui pousse à la faute. Oui, quand vous êtes en compétition, vous êtes obligé de vous aligner sur... quand vous avez un joueur qui est courtisé par trois clubs à la fois et que vous le voulez, donc vous allez monter en salaire. C'est normal, je reproche rien à personne, c'est la loi des choses. Sauf que il faudrait une règle collective imposée d'extérieur pour dire... À un moment donné, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà. Et oui, mais c'est pas grave, on va passer par des virements offshore et tout. Ok, les mecs qui fraudent, eh ben, ils vont aller en taule. Et ça devrait être des règles internationales imposées par la FIFA, l'UEFA. Ils ont mis un fair play financier, mais c'est n'importe quoi. Donc, il faut protéger les dirigeants contre leurs propres dérives. Sinon, ils font péter leur club. C'est inaudible. 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 Je vous le dis, hein, parce que ça fait 25 ans que je dis la même chose. C'est comme un toubib qui dit attention, si vous continuez à fumer, vous allez avoir le cancer. Oui, 25 ans, sûr. Le mec qui a le cancer, je dis mais je vous l'avais dit quand même.
Bien sûr. C'est mécanique. À titre d'info, le LOSC est à 26 millions d'euros de commission voilà. D'agence pour la saison 2019.
C'est proportionnel au modèle. Plus ils font de transferts, plus ils donnent des commissions. Voilà. Et maintenant, moi, je peux vous dire, derrière certaines reprises de clubs, j'ai été appelé à droite à gauche, vous avez des agents maintenant. Et qui amènent des actionnaires et qui, eux, sont là pour faire... Parce qu'ils ont besoin, c'est un des paradoxes, ils ont besoin que le système continue.
En tout cas...
Ça marche sur la tête, quoi.
Merci beaucoup, hein, Luc, pour tout ça. Dans le chat, les gens sont passionnés par tout ça. Hein. Antoine dit bravo, les gars, émission 5 étoiles. Yannick Lefrère, passionnante, cette interview de Luc Dayan. Merci. Je vais faire un dernier point avant de dire au revoir. On va juste se projeter rapidement sur un club que Luc Dayan n'a pas connu, Montpellier.
Michel Derzakarian était entraîneur à Nantes quand je suis arrivé à Nantes. C'est moi qui l'ai maintenu. C'est un très bon ami. Et je connais très bien le fils de Loulou, que je connaissais bien aussi. Non, non. Et puis, j'habitais pas loin. Quand j'étais président de Lens, j'habitais à Fontvieille, qui était 60 km de Montpellier. Donc, ne croyez pas ça.
Ah, pardon. Donc, je serais parfaitement placé pour parler de l'entraîneur qu'on va donc affronter samedi, Michel Derzakarian. Ah,
c'est un type super. Hein, c'est vraiment un super.
Là, qui est un peu plus hein, dans le dur depuis quelques semaines.
C'est un super entraîneur. C'est un super mec. C'est vraiment un type bien.
Alors non, on l'a connu à Reims, là, à Montpellier maintenant. Greg, qu'est-ce que t'attends toi de ce match face à Montpellier?
Un peu comme le match aller, qu'on s'éclate un peu. Ouais. Parce qu'on s'est vraiment éclaté, 3-2, mais au-delà des buts, c'était. Ouais, alors il manquera du monde, hein, côté montpelliérain. Moi, des mecs comme Delors, ils me font. Voilà, ouais. Tu sens qu'ils jouent leur vie sur chaque match, c'est bonheur, c'est du football.
Ah, il manque beaucoup de personnes. Alors, il y a
ouais, Savanier.
Il manque du monde. Alors là, juste la problématique pour Lens, c'est qu'en ce moment, ils jouent que des équipes en galère. Hein. Ils jouent Marseille, c'est la crise. Ils jouent Nice, qui est un peu, où c'est un peu le show avec les supporters. Là, ils jouent Montpellier, où pareil, les Montpelliérains ont été un peu bougés après la défaite, même si c'était à Paris 4-0. Donc, ouais. Donc voilà, à un moment donné, peut-être que Lens rejouera des équipes en tout qui sont aussi en sérénité. Mais bon, j'attends juste un beau match. C'est quand même le casting, j'avais dit. Poser la question au match aller à Franck Hez, ce serait est-ce que ce Lens Montpellier sera sexy? Ça avait fait marrer. Finalement, le match a été sympa. Donc, j'espère que le match retour sera du même tonneau et puis voir le RC Lens peut-être reprendre un peu, au moins au niveau comptable, prendre encore un point qui lui permettrait de se rapprocher encore de l'objectif maintien.
Alors, juste avant de donner la parole à Sam, je tiens à te dire, il y a une très bonne nouvelle qui s'est passée aujourd'hui. Greg Lallemand n'a pas gagné le quiz, c'est le chat qui a gagné le quiz parce que ils ont dit des noms. Qui n'avait pas été sorti. Bon, après,
bravo.
Voilà, bravo, chat. Ça, ce match face à Montpellier.
Greg l'a dit, hein, Montpellier, c'est une équipe qui est vraiment en délicatesse. La dernière victoire de Montpellier, c'était d'ailleurs à Lens. Hein. Donc, ça commence à remonter. Je crois qu'ils ont pris deux points en sept matchs, donc ils sont vraiment dans le dur. Il y a pas mal d'absents. Voilà, on a parlé de l'argument physique. Bon là, les Ansois vont avoir une semaine pour se reposer. Bon, l'idée pour moi, c'est de réenclencher la marche avant de pouvoir, continuer à prendre des points sur une série de 4-5 matchs. Il faut réenclencher. Bon là, et je pense qu'il y a possibilité de réenclencher contre une équipe de Montpellier qui est en délicatesse. Je vois un match beaucoup moins ouvert. Peut-être que je me gourre, mais beaucoup moins ouvert qu'au match aller où on avait deux équipes, voilà, qui étaient sans confiance, etc. Je pense que les Montpellierains vont avoir besoin de se rassurer un petit peu. Donc, je vois un match qui sera un peu plus fermé quand même.
Amaury.
Écoute, moi, ce que j'attends du match, c'est qu'on retrouve une animation offensive un peu plus intéressante. Là, sur le match de Nice, on fait trois frappes sur les 75 premières minutes, dont un centre tir de Ganagon, c'est même pas exactement ce qu'il a voulu faire. Et au final, je crois qu'on fait trois tirs cadrés sur les 90 minutes. Donc, tu vois, c'est quand même vraiment insuffisant. Donc, vraiment, qu'on retrouve cet allant-là. On joue contre une équipe qui a pas gagné depuis 7 matchs, du coup. Mais on a l'avantage d'avoir nos points maintenant. Donc, jouons en prenant des risques. Un peu l'image du match de Marseille où on devient ambitieux à 46e, on marque au bout de 10 minutes plus tard. Donc, ayons de l'entrée dans le jeu et attaquons, quoi, vraiment.
Et peut-être qu'après la semaine qui aura permis de souffler leur silence, on verra un meilleur match que face à Nice. On fait les pronos rapidement, Greg.
1-0 pour Montpellier.
Amaury.
2-1 pour Montpellier.
Sam.
1 partout.
Et Luc, je vous laisse finir avec votre pronostic.
Allez, on va faire 2-2.
2-2, bon, un match animé comme match allé probablement.
Tu sais qu'il y a un peu de vent là, ça peut aller n'importe où.
Ouais, c'est ce qu'on espère, en tout cas, on espère s'amuser à 17h. Nous, on espère que l'émission vous a plu, visiblement, d'après vos commentaires, oui. Je vous remercie à Maury, Greg et Sam. Comme d'habitude, vous avez été exceptionnels et incroyables. C'est toujours un plaisir de mener une équipe pareille. C'est dingue, hein, le caviar qu'on donne avec cette émission. Et le caviar qui était complété. Allez, qu'est-ce que je peux dire? En plus du caviar, il y avait du saumon fumé, du foie gras avec Luc Dayan que je remercie énormément.
Non, n'hésitez pas.
Merci pour votre
réponse. Merci, Luc.
Allez, merci à vous.
Et j'en profite pour remercier aussi Mathieu qui a réalisé l'émission, qui nous a permis d'avoir Luc Dayan aujourd'hui, et Baptiste à la régie qui est au taquet comme toujours. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve lundi pour faire le débrief de ce match face à Montpellier. Et en attendant, je vais dire les deux mots qui fâchent pour certains, mais qui font souvent très plaisir ici. Allez, Lens.